Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Grace Amzati Masandi.
À la une de l'actualité ce soir, 16 morts et 12 blessés, c'est le bilan provisoire de l'incursion la nuit dernière d'hommes armés dans les villages de Kandoï, dans les territoires d'Aru, en Ituri. Clôture hier à Bukavu, Sud Kivu, d'une formation d'une centaine de policiers congolais en police des mines et hydrocarbures. Une formation organisée grâce à l'Organisation internationale des migrations sous le financement du gouvernement américain. Nous en parlons sous peu avec Rachel Kiesembangu. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante est l'invité de ce journal. Corneille Nangaa parle des raisons de son exil, mais aussi d'autres sujets brûlants d'actualité, notamment le processus électoral en cours. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal part de l'Ituri où 16 morts, 12 blessés. C'est le bilan provisoire de l'incursion la nuit dernière d'hommes en armes identifiés par la population comme étant des miliciens de la Codeco dans les villages de Kandoï à 120 km d'Aru Centre. Selon des sources locales, des creuseurs artisanaux retrouvés dans le site minier de Chaba figurent parmi les victimes. Ces miliciens ont pillé plusieurs biens et incendié une vingtaine de maisons. L'armée est à pied d'œuvre pour traquer des groupes armés qui troublent la quiétude dans ces territoires, indique son porte-parole. Ezekiel Mouzalia.
Lundi soir, vers 20h locales, un groupe d'hommes armés de fusils et d'armes blanches surgissent dans les carrés miniers de Chaba, à 18 km du centre des négoces de Kandoï, dans le territoire d'Aru. Des tirs nourris venant de toutes les directions retentissent. C'est la débandade totale. Le bilan provisoire avancé par diverses sources locales parle de 14 personnes abattues, soit 3 femmes et 11 hommes qui se trouvaient pour certains sur les sites et pour d'autres dans leur logis. 12 blessés ont été acheminés dans des structures médicales de la place et d'autres personnes ont été prises en otage. Indiquent les mêmes sources. Des sources concordantes dans la région déplorent la faible présence des militaires sur place, ce qui, selon elles, n'a pas permis de limiter les dégâts. Cette attaque a provoqué un déplacement des populations du village Alou qui ont trouvé refuge dans les entités voisines telles que les Boulou et Kandoï Centre. Des sources proches de la milice Codeco rejettent la responsabilité de cette attaque et promettent de communiquer ultérieurement sur cet énième drame. L'armée indique que des efforts sont consentis pour retrouver les vrais auteurs de ces tueries et les poursuivre en justice. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, deux personnes ont été tuées par balle dans la nuit de lundi à ce mardi à Chomia, village lacustre situé à 55 km au sud de Bounia, dans les territoires de Djougou. Selon plusieurs sources locales, l'auteur serait un militaire de la force navale. Les victimes, qui sont des membres d'une même famille, se trouvaient dans leur domicile quand le suspect a tiré sur elles. L'incident a suscité ce matin une vive colère de la population. La société civile locale exige le relèvement de cette unité des marins à la base, selon elle, de plusieurs actes du genre. Le récit de Martial Kizabiamungu.
D'après plusieurs sources, tout a commencé lorsque le militaire de la force navale cherchait son épouse qui s'était réfugiée chez son frère qui est un agent de l'Agence nationale des renseignements en poste à Chomia. Arrivé lundi soir au domicile de son beau-frère, ce soldat marin a commencé à tirer sur ce dernier puis sur sa femme. Les deux sont décédés sur les coups. Ce mardi matin, certains jeunes en colère ont organisé un sit-in devant la base des marins à Chomia pour dénoncer cet énième incident du genre impliquant un militaire de la force navale. Face à la colère de la foule, des militaires ont ouvert les feux et un des manifestants a été grièvement blessé. La société civile locale exige les relèvements rapides des militaires de la force navale, dont certains ont déjà passé plus de 15 ans dans la région de Chomia et Kasenyi. Les porte-parole de l'armée à Ituri confirment l'arrestation de ces militaires présumés auteurs du tir. C'est le deuxième acte du genre en espace d'un mois à Chomia après la mort le mois dernier de 13 personnes tuées à la suite des tirs d'un militaire de la force navale jugé et il avait écopé d'une prison à vie. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au nord Kivu, 4 villages du groupement Mufuni Shanga sont vidés de leur population depuis hier lundi dans les territoires des Masisi. Il s'agit des villages de Ndumba, Kaouli, Musuira et Kabasse, de la notabilité de Bwanga, Lukula, Kabasse. C'est environ 10 km au nord de la cité de Bweremana, en chefferie de Baoundé. Les sources coutumières affirment que ces habitants fuient les abus, les exactions ainsi que les affrontements récurrents entre les différents groupes armés qui vivent à la solde de la population. La société civile locale plaide pour une bonne prise en charge et ses combattants qui agissent sous la casquette des réservistes et de l'armée. Le point avec Gabriel Ouamenia.
Les habitants de ces villages ont été surpris par les combattants Wazalendo du Pareco FFP du général autoproclamé Rivo à la paix céleste de Janvier Kalahiri pendant qu'ils exécutaient les travaux communautaires. À leur arrivée, ils ont commencé à torturer la population, les accusant de collaborer avec un autre groupe armé de Wazalendo, dont la paix céleste de Janvier Kalahiri. Les sources de la société civile parlent de deux personnes gravement torturées et avancent un bilan de quatre personnes tuées les deux derniers mois par ces combattants qui se disent réservistes de l'armée. Barami Kwa Jean Dédié.
Les mouvements de Wazalendo, à chaque jour, sont en train de faire les affrontements entre elles-mêmes. On a aussi pillé la population dans le village de Kavase. On demande aux autorités de chercher comment dialoguer avec ces mouvements, car c'est nous qui les prenons en charge.
Rappelons qu'au moins quatre groupes armés, dont la paix céleste de Janvier Kalahiri, les Pareco FFP, d'un certain général autoproclamé Maroc, les Pareco IPCRL, faction d'un certain colonel Bonané et Pareco tout court, dirigé par un colonel surnommé 32, s'affrontent régulièrement et se disputent les contrôles du groupement de Mufuni Changa dans la chefferie de Baoundé. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu, des centaines de familles de déplacés et sinistrés de la dernière éruption du volcan Nyiragongo, logés dans différents sites du territoire de Nyiragongo, crient au secours. Selon ces déplacés et sinistrés, les dernières bâches reçues en assistance il y a plusieurs mois sont déjà en lambeaux. À la veille de la saison pluvieuse qui s'annonce, ils redoutent d'être confrontés aux mauvaises intempéries. À Goma, une correspondance de Bernard Nyangi.
Dans le site de Kayembe, par exemple, si les milliers de déplacés et sinistrés nécessitent une assistance en vivres, ils présentent un besoin encore plus urgent d'abris aménagés. Témoignage.
Quelques familles avaient été délocalisées. Nous qui sommes restés dans ces sites, nos bâches ont vieilli. Nous savons à quel sens elles sont. Les dernières bâches, nous les avons réceptionnées depuis plusieurs mois. Elles ont vieilli. Si la pluie arrivait, il y aura des problèmes.
Après plus de 10 mois sans assistance, le coordonnateur de l'association Action d'animation pour le développement des paysans à Kadepa fait un plaidoyer pressant. Bosseni Bamwe, Etienne.
Les sites de Kayembe, Kanyauchinya, Kibati, les signes de la pluie sont observés. C'est pour cela, demandons au gouvernement et ses partenaires pour qu'ils puissent disponibiliser des bâches.
Contacté, le chef de service provincial de protection civile affirme que c'est un problème général. Pour Joël Ndagana, les humanitaires poursuivent le plaidoyer pour assister ces déplacés. Pendant ce temps, Ocha, ajoute-t-il, planifie déjà la distribution des 180 tonnes de vivres et de non-vivres qui arrivent déjà à Goma dans le cadre du deuxième pont aérien de l'Union européenne. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Je l'ai dit dans les titres, au sud Kivu, une centaine de policiers congolais ont été formés en police des mines et hydrocarbures. Une formation de 90 jours qui a été clôturée hier lundi à l'école de police Jules Moquet. Une formation organisée en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations OIM sud Kivu sous le financement du gouvernement américain. Depuis Bukavu, un reportage signé Rachel Kiesimbangu.
La formation clôturée en ce jour a débuté le 29 mai 2023 et était constituée des 41 matières sur les techniques minières dispensées par 17 formateurs attitrés. L'OIM encourage les efforts entrepris par le gouvernement congolais pour la réforme de la PNC et pour la réalisation de ce projet.
Cette phase du projet vise à soutenir les institutions congolaises, y compris la police nationale congolaise, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des minerais.
Le gouverneur du Sud Kivu a félicité à son tour l'OIM pour son apport dans les secteurs miniers, secteur le plus criminogène dans la province. Teungo Bijekasi.
Comme vous le savez, le secteur des mines est devenu le milieu le plus criminogène au site Kivu et nécessite des effectifs de sécurité le plus professionnel possible à la matière. Je salue ici les efforts consentis par l'Organisation internationale de migration de l'école de police Jules Moquet d'avoir visé ces secteurs de mines en vue de réduire au maximum les trafics illicites de minerais, la lutte contre la drogue et les stupéfiants.
Signalons qu'il s'agit de la quatrième session de formation en police des mines et hydrocarbures. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Controverse autour du partenariat entre la RDC et le groupe Emirati Primera qui a donné naissance à Primera Gold RDC, le gouvernement congolais assure que c'est une stratégie mise en place pour lutter contre le trafic illégal des minerais de la RDC vers le Rwanda, mais aussi une manière de gagner en termes de traçabilité des minerais. C'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui l'a dit au cours d'une conférence de presse organisée hier ici à Kinshasa par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya en réponse aux allégations du député et avocat Alfred Maisha qui accuse trois ministres de la RDC d'avoir accordé le monopole d'achat, de commercialisation et d'exportation de l'or artisanal de la RDC et du coltan pendant 25 ans à Primera, à un moindre coût. Fulbert Balolagué nous en parle dans ses reportages.
Alfred Maisha accuse la ministre des portefeuilles, la ministre des mines et celui des finances d'avoir signé ses partenariats avec Primera Gold à un prix dérisoire, ce qui pour lui prouve la mafia derrière ces contrats.
Il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi ? À cause des 11 000 dollars, les trois membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible.
De son côté, le gouvernement congolais reste convaincu que ce contrat est une stratégie pour récupérer sa souveraineté économique et il n'y a aucune mafia derrière, comme le dit Nicolas Kazadi, ministre des Finances.
Nous sommes dans une opération hautement stratégique de blanchiment de l'approvisionnement en or en provenance de la RDC et à destination des Émirats Arabes Unis. Mais nous maintenons le cap parce que nous sommes sûrs qu'il s'agit d'une opération tout à fait transparente dans l'intérêt du pays. Au contraire, c'est une opération anti-mafia et nous défions quiconque d'aller chercher une quelconque mafia dedans.
André Wameso, directeur du cabinet adjoint du président de la République en charge des finances, explique que ce contrat permettra la construction de 2200 km de route, la réhabilitation des deux aéroports et la construction d'une centrale électrique.
Merci de nous recevoir dans les villages d'Ingi, Kambelembele et Sabiazo dans la province du Maniema. C'est depuis près d'une année que l'organisation humanitaire Agro-Action Allemande est à Dingi, village situé à 64 km au sud de la ville de Kindu, pour réhabiliter la route des dessertes agricoles dans la chefferie de Bangengele et le secteur Balanga. Nous sommes dans le territoire de Kailo. Hier lundi, une mission est descendue à Dingi pour le suivi de ses travaux. Florence Kizalunga fait partie de cette mission. Voici son reportage.
À part les médias, cette mission est composée de membres de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, du ministère provincial de l'environnement, de l'Office des voies des dessertes agricoles, OVDA, ainsi que ceux du bureau d'études de l'ICCN. Sur une distance de 64 km, à véhicule, il faut réaliser plus de 3 heures. Les tronçons sont de très mauvais état, les routes sont confondues à des sentiers. Les accidents sur cette route sont fréquents, vu son état de délabrement très avancé. L'ICCN a pris l'initiative de réhabiliter cette route pour stabiliser les niveaux socio-économiques des communautés vivant dans la zone périphérique du parc national de la Lomami. Cette population qui s'occupait des activités alternatives à la chasse et à l'agriculture, qui englobe la culture, la pêche, la pisciculture et l'élevage, la réhabilitation de cette route permet à la communauté d'évacuer librement ses produits des champs vers le grand centre de consommation. Signalons que ce projet de ICCN est financé par la Banque allemande de développement KfW et exécuté par l'ex-AAA, Agro-Action Allemande, pour une durée de 26 mois. Depuis Dingi, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Parlons à présent de la rentrée scolaire dans les territoires de Beni au Nord Kivu, où la notabilité du secteur de Beni Mbau invite le gouvernement congolais à tout faire pour sécuriser les axes sous menace des ADF. Gervais Makofi Bukuka, notable de ce secteur, affirme en effet que l'insécurité qui sévit depuis plus d'une décennie dans cette région a impacté négativement l'éducation scolaire. Il estime que les orphelins et autres élèves défavorisés devraient être soutenus en fourniture scolaire par l'État congolais. Gervais Makofi Bukuka le dit au téléphone de Guylaine Kassassia.
Comme l'année passée, on a eu au moins 60% des élèves qui ont étudié dans leurs écoles. Nous espérons que peut-être, avec ce que nous sommes en train de vivre, ça va être 65% ou 70%. Mais notre besoin est que toute la population puisse être bénéficiaire de la formation scolaire. Parce que si vous passez sur la route Mbaoukamango et au PK25, vous allez voir que la situation de ces contrées n'est pas celle qui peut permettre aux élèves de se mouvoir librement. Si vous prenez l'axe Mantumbi, l'axe Manyama-Beou, même dans le groupement des Bambou Bakissi qui vers Eringeti, il y a des villages abandonnés alors qu'il y a des écoles là-bas. C'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement de voir comment prendre des stratégies pour appuyer la population du secteur de Benimbo en particulier et du territoire de Benin en général pour que les élèves soient bénéficiaires de la formation scolaire comme leurs parents n'ont plus de moyens pour trouver le fourniture scolaire. Nous demandons au gouvernement à travers son ministère des Affaires sociales de voir comment appuyer les élèves déplacés de guerre et même orphelins pour qu'ils obtiennent le nécessaire du gouvernement.
Non loin de là, à Boutembo, il y a peu d'engouement au marché des ventes des fournitures scolaires à une semaine de la rentrée scolaire. Même constat dans certains établissements scolaires où les inscriptions des élèves se font à pas de tortue. Certaines personnes pensent que les parents d'élèves attendent de venir au dernier moment. Reportage de Grévy Salomon.
Au centre commercial de Boutembo, par exemple, les vendeurs de fournitures scolaires attendent à longueur des journées d'hypothétiques clients. Les rares qui passent, ne faut que demander les prix des ventes sans faire des achats. Témoignage d'Amos Kayenga, revendeur de fournitures scolaires rencontré au marché central.
La vente ne vole pas comme l'autre année. Cette vente est trop bizarre. À ce jour, les clients n'ont pas encore commencé à venir. Ils sont en train de trouver dans ce jour une personne, soit aidée. Même les prix d'année passée étaient élevés plus que d'aujourd'hui. On ne comprend pas si les clients n'arrivent pas, pourquoi. Peut-être qu'ils sont en train d'attendre qu'on puisse commencer les cours.
Le constat est le même dans des établissements scolaires où les parents se présentent au compte-gouttes pour inscrire leurs enfants. C'est ce que dit Roger Kizito Moussavouli, directeur de l'école primaire Mater Ecclesiae, une école publique.
Les parents ne viennent pas encore nombreux parce que nous avons lancé le communiqué des inscriptions. Alors, nous pensons que d'autres viendront, surtout vers la rentrée, c'est là où il y aura beaucoup d'engouement. Et viennent l'un après l'autre. En principe, ils devaient être là à Mans, compte tenu que les inscriptions sont gratuites.
Rappelons que la rentrée scolaire est prévue le lundi 4 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Boutembo, Grévy Salomon, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La ministre française des Affaires étrangères s'est dit convaincue que les relations entre la France et les pays africains ont un bel avenir devant elle dans un discours le 29 août 2023 devant les ambassadeurs réunis à Paris pour leur conférence annuelle. L'instrumentalisation populiste des discours anti-français ici ou là ne doit pas occulter la qualité et la densité de nos relations dans l'immense majorité des cas, ajoute Catherine Colonna.
L'invité.
Il y a eu des secrets de délibération des véritables résultats des votes et secrets d'accord sur les résultats. Le processus électoral en cours est biaisé et tribalisé dans son architecture. Ce sont les déclarations de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI en exil. Dans une interview accordée à Radio Okapi, il s'exprime sur les raisons de son exil, l'actuel processus électoral et passé, ainsi que sur la rébellion du M23. Corneille Nangaa est l'invité de Radio Okapi. Il répond aux questions de Jeff Ngoy.
Corneille Nangaa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff Ngoy.
Pourquoi vous vous êtes exilé?
Mais il n'est un secret pour personne que le régime Tshisekedi refuse toute contradiction, toute critique positive ou tout débat. Nous assistons à une gouvernance des faits qui viole même les fondamentaux d'un état de droit. Dans ces conditions, vous comprenez que l'environnement politique est verrouillé et l'opposition évolue dans une sorte de bergerie où règne la loi de l'illégalité et du banditisme d'État. Perquisitions illégales, arrestations arbitraires et confiscation de toutes les libertés. Ma situation était d'autant plus inquiétante qu'il m'a été retiré toute la garde et donc toute protection. Je vivais sous des menaces permanentes. Ma sécurité n'était plus garantie au pays.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de gêner le régime en place avec vos déclarations incendiaires, en dépit du rôle que vous aviez joué dans l'organisation des élections et qui vous intime un droit de réserve et de discrétion?
Déclaration incendiaire, non. Je dis juste la vérité et je dénonce. Nous taire tous devant la dérive à laquelle nous conduit M. Tshisekedi, c'est hypothéquer le pays. Le pays est en danger. Aucun engagement pris par le président de la République n'a jamais été respecté. Tenez, Genève, Nairobi, FCCH et autres. Non, la faute revient toujours aux autres. Le président pense que lui n'a que des droits, il n'a jamais d'obligation. Alors les tentonnements avec lesquels on gère les pays obéit justement à cette logique. On amène les forces conjointes. Demain c'est EAC Forces, les forces de l'EAC. Et aujourd'hui on est en train de nous parler de la SADC. Non, je vous informe que la SADC ne viendra pas. Pourquoi? Parce que notre chef de l'État n'est plus fiable. personne ne croit à lui.
Vous avez promis de dire certaines vérités à la presse le 7 septembre. S'agit-il de quelles vérités?
Tout le monde évoque à tort ou à raison les dispositions de la loi organique sur la CENI, lesquelles nous astreignent à une obligation de réserve par rapport au secret des délibérations des résultats des votes en ma qualité d'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. L'article 20 de la loi organique précise qu'on ne peut dévoiler les secrets des délibérations des résultats des votes, même après son mandat. Je dois vous dire, Monsieur Ngoy, que je suis un homme d'État. Ce qui a circulé dans les réseaux sociaux n'était qu'une éloquente rumeur qui ne m'engage pas. À ces propos, il est important de préciser aux Congolais que mon compte Twitter est bien certifié et que toutes mes déclarations portent officiellement ma signature et je les assume. Cependant, nous apprécions beaucoup ces rappels au respect de la loi lorsqu'on parle des secrets des votes dans la mesure où le même principe devait s'appliquer à tous les Congolais, y compris le président de la République. Il n'est pas normal que le chef de l'État se spécialise dans la violation systématique de la Constitution tout en exigeant aux autres Congolais d'en observer les normes. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais parlé des secrets des votes dans aucune de nos déclarations.
Avec un peu de recul, que savez-vous du processus électoral passé que le grand public ignore?
Tenez, il y a eu des secrets de délibération, des véritables résultats des votes et des secrets d'un accord politique sur les résultats. Alors, de quoi veut-on m'amener par m'empêcher de parler? Ceux qui s'improvisionnent dans ce débat doivent faire très attention parce que c'est très dangereux. Je suis serein et je fonctionne comme un acteur politique libre de s'exprimer sur les questions brûlantes des survies de mon pays aujourd'hui en danger de disparition du fin des régimes qui jouent les troubles faits.
Vous vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, mais là vous êtes en exil. Comment comptez-vous organiser votre campagne électorale en dehors du pays?
Ma candidature à la présidence est sans équivoque. L'idéal serait bien entendu que les conditions idoines à un retour à la normale de la situation soient garanties afin de permettre à tout le monde de participer comme il se doit au processus électoral. Nous ne croyons pas aujourd'hui à un processus biaisé, processus dont l'architecture est tribalisée. Toute l'architecture électorale part de l'organisation des élections, de la gestion des contentieux, la sécurisation du processus, financement du processus électoral et à l'encadrement du processus. Que les animateurs de cette architecture ne soient qui peut que pas les ressortissants d'une même tribu, ça n'est pas concevable.
Je vous remercie.
Corneille Nanga, l'ancien président de la CENI, était interrogé par Jeff Ngoy. Fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga et supervisé par Pele Kipe Lamondo. Alain Ngoy a assuré la mise en onde. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de l'antenne au Capi Soir avec Christelle Fritimangwa. Au revoir.